Nous lisons dans Luc au chapitre 7. Luc au chapitre 7. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. » Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas !» Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparu parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous dis-je, et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemble-t-il? Il ressemble aux enfants assis sur la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complètes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites « Il a un démon ». Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est venu, mangeant et buvant, et vous dites « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Nous continuons au verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui qui à qui on a pardonné, on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Voilà ce texte. Voilà, on a lu tout le chapitre pour que tout le contexte soit devant nos yeux. Jésus guérit le serviteur du centenier, un miracle extraordinaire. Il dit un seul mot et le serviteur est guéri. Et en plus, il le dit à distance, selon la foi du centenier qui lui a dit, mais Seigneur, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot, puisque toi, tu peux commander même la création. Et le Seigneur a commandé, le serviteur a été guéri. Ensuite, il arrive à Naïn. Et dans cette ville, il y a une veuve qui allait, entourée par les gens de la ville, enterrer son fils unique. Donc déjà qu'elle était veuve, elle allait en plus enterrer son fils unique. Et Jésus, étant pris de compassion, il arrête le convoi, il fait réveiller le mort et il le rend à sa mère. Quelle joie! Le peuple était dans une grande joie. Les gens étaient contents de voir cette veuve ainsi restaurée, consolée, fortifiée par la résurrection de son fils. Et puis Jésus va dire quelque chose de grave. C'est là notre sujet d'aujourd'hui. Il dit, mais qu'est-ce que vous êtes parti voir dans le désert? Dans le désert, ce qui était en train de travailler, c'était Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous êtes parti voir là-bas? Jésus dit, c'était pas un homme normal, c'était, il était un prophète normal, il était plus qu'un prophète, Jean-Baptiste. Car c'est lui qui a précédé le Fils de Dieu. Il a eu cet honneur-là de précéder le Fils de Dieu. Il a eu seul cet honneur de baptiser le Fils de Dieu. Donc, il était plus qu'un prophète. Il dit, mais en parlant à beaucoup de gens qui étaient là, il dit, mais vous avez eu Jean-Baptiste. Est-ce que tous vous vous êtes donnés à Dieu? Non. Un certain nombre seulement s'est donné à Dieu. Mais et dans ce nombre-là, il y avait beaucoup plus de gens de mauvaise vie plutôt que de gens intelligents, des gens ayant une stature qui leur communique un certain orgueil. Il dit, quand Jean était sur place, il vous dérangeait parce que Jean-Baptiste passait son temps dans les déserts et il passait son temps à jeûner. Il mangeait du miel et des sauterelles. Alors, ça vous a conduit à dire qu'il avait un démon. Comment un humain peut passer son temps à jeûner et à manger du miel et des sauterelles? Parce que il était hors d'atteinte en matière de sainteté. Vous ne pouviez pas l'approcher. Alors, vous avez décidé qu'il avait un démon. Maintenant, moi, je mange, je bois. Mais je fais des miracles que personne ne peut faire. Si Jean vous a dégoûté, mais au moins suivez-moi. Mais non, moi maintenant le problème c'est que je mange. Vous aviez critiqué Jean parce qu'il ne mangeait pas. Maintenant moi je viens faire tous les miracles prévus par la parole de Dieu concernant le Messie. Là encore, Vous faites un problème du fait que je mange comme vous. Il dit, mais vous êtes comparables à des enfants qui sont dans la place publique, qui se parlent. Oui, mais ils ont chanté, on n'a pas dansé. Ils ont pleuré, on n'a pas pleuré. Donc finalement, qu'est-ce que vous voulez? Bien-aimés, nous voulons nous poser cette question. Qu'est-ce qui fait que l'homme ne veut pas se confier en Dieu? Qu'est-ce que tu veux? Jean-Baptiste dit, mais qu'est-ce que tu veux? Et non, Jésus dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Jean-Baptiste, il ne mangeait pas. Il se nourrissait de miel et de sauterelles. Il était vêtu de peau d'animaux. Il était dans les déserts. Vous avez dit qu'il avait un démon. D'accord. Moi, je viens, je mange, je bois comme vous. Je fais des miracles, je ressuscite les morts, je guéris les malades, je donne la vue aux aveugles. Et moi, vous venez encore me critiquer en disant, mais je suis un gourmand, je suis un ivrogne. Mais qu'est-ce que vous voulez, bien-aimé, qu'est-ce que les humains veulent? Dieu veut sauver chaque homme. Mais les hommes se comportent en eux-mêmes, en des sortes de dieux. Ils sont devenus eux-mêmes des dieux. Donc c'est comme si Dieu était vendeur dans un commerce et les hommes sont des clients. Pour venir à Dieu, ils fixent des conditions à Dieu. Le problème, c'est que Dieu parfois remplit ses conditions. Nous avons connu des gens qui disaient, je veux qu'il se révèle à moi. Je veux le voir. Et ces gens-là ont eu des visions. Mais ils ne se sont pas convertis. Nous avons connu des gens qui disaient, je veux que mon père soit guéri. Là, je comprendrai vraiment que Dieu existe. Dieu a honoré cela, mais ils ne se sont pas convertis pour autant. C'est ce que Jésus dit là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous avons, avec certains bien-aimés, fait l'étude biblique sur Moïse, le mardi. Qu'est-ce qu'on a constaté? Que Moïse était irréprochable. Moïse était correct. Il transmettait ce que Dieu lui avait donné fidèlement. Il supportait avec patience le peuple. Malgré tout, les gens ne l'ont pas écouté. Et même son propre frère et sa propre sœur de, de même père et de même mère, ont voulu s'opposer à lui, ont tenté de s'opposer à lui. Et c'est là qu'à la clôture de cet enseignement biblique, on a dit, mais aujourd'hui, on se plaint à gauche, à droite, qu'il y a de faux serviteurs, le peuple de Dieu a abandonné, de faux pasteurs à gauche, à droite. Mais et à l'époque des enfants d'Israël, c'était la même chose. Il y avait des faux serviteurs, des faux prophètes. Mais quand il y a eu un vrai prophète, est-ce qu'ils les ont suivis? Non. Quand il y a eu Moïse, est-ce qu'ils l'ont suivi? Ils ne l'ont pas suivi. Donc les humains veulent quoi? Quand il y a les faux, on dit c'est des faux. Quand il y a des vrais, on ne suit pas. Et Dieu dit, mais finalement, vous voulez quoi? Vous savez, aujourd'hui sur Internet, il y a de plus en plus, puisque tout le monde peut accéder à YouTube, tout le monde peut envoyer une vidéo à YouTube, il y a de plus en plus de guerres entre pasteurs sur Internet, par YouTube, interposées. Et chacun veut convaincre les enfants de Dieu à suivre ce qu'il dit. Et qu'est-ce qu'on constate? En lisant les commentaires parfois des gens qui suivent tout ça, mais ils commencent à injurier. Donc ceux qui sont pour un serviteur en arrivent même à injurier un autre serviteur. Admettons même qu'il soit faux. Je ne comprends pas que l'intervention de quelqu'un qui doit nous amener à être correct nous pousse à injurier quelqu'un d'autre, même s'il est faux. Donc je vois des commentaires laissés où on injurie la personne, c'est vrai, qui est fausse, mais si vraiment on a compris la personne qui était vraie, on n'a pas injurié la personne qui est fausse, puisque la Bible dit qu'on ne doit pas nous pécher en reprenant l'autre. Nous devons reprendre l'autre avec douceur. Donc, c'est que la personne qui est venue critiquer le faux a quelque part mal fait son travail. On se souvient quand on est venu arrêter Jésus, Pierre a coupé l'oreille d'un soldat, mais Jésus a dit, mais non, ce n'est pas comme ça. Il a pris l'oreille, il a remis, il a guéri. Il a dit, non, il faut laisser faire. Appliquez ce que je vous ai dit. Soyez prudents comme des serpents, mais doux comme des colombes. Jésus dit, lui-même, il est doux. Et vous savez, les enfants de Dieu sont devenus comme des spectateurs. Ils sont là à regarder. Il y a un qui passe, qui fait sa vidéo, ils attendent la réponse de l'autre. Et les prédicateurs sont devenus donc des hommes de spectacle. Et ces gens-là qui regardent un serviteur critiquer l'autre, qui regardent un serviteur corriger une autre église, mais est-ce qu'eux-mêmes ils changent pour dire, tiens, on a corrigé les faussetés d'une telle église, donc moi, je veux suivre la vérité maintenant? Non. Ils restent spectateurs. Ils regardent les prétendus serviteurs de Dieu s'étriper, se taper dessus. Mais ils ne prennent pas la décision de dire, mais tiens, il y a un qui a dit quelque chose de vrai là, je prends ça puisque c'est dans la parole de Dieu. L'autre aussi a dit quelque chose de vrai, je prends ça. Et moi, ma vie, je vais la ranger par rapport à ces vérités que j'entends. Non. On est comme des spectateurs, on regarde des prédicateurs se battre par YouTube interposé. Bien-aimés, nous ne devons pas encourager cela. Nous devons faire comme les prophètes autrefois, dans l'Ancien Testament. Ces prophètes-là, ils ne passaient pas leur temps à attaquer les faux prophètes. Ils attaquaient le peuple de Dieu en disant, c'est vous qui êtes mauvais. C'est pourquoi vous suivez les faux prophètes. C'est écrit dans 2 Timothée 4. Dans les derniers temps, les gens se choisiront leur propre docteur. Il y a des faux docteurs, on est d'accord. Il y a des faux pasteurs, on est d'accord. Mais à partir de là, quelle décision toi tu as prise pour toi? On ne va pas rester là à dire, il y a des faux. Et puis quand un vrai se présente, on dit comme Jésus a dit, il a un démon, il ne mange pas. Ou bien on dit que c'est un gourmand, alors qu'il a fait ses preuves, Jésus a fait ses preuves. Mais malgré tout, donc, pourquoi je vous ai lu les deux premières parties, les deux premiers miracles? C'est pour montrer que Jésus avait fait ses preuves, puisque le peuple a acclamé en disant « Un grand prophète est venu parmi nous ». Mais quand il fallait maintenant le suivre à 100%, ah non, il a un démon. Il délivre les gens par Belzéboul. Quand il a fallu suivre Jésus à 100%, il a dit « Non, il n'est pas nationaliste. Il critique les Juifs. Ce n'est pas normal. » Donc, à un certain moment, on reconnaît que la personne est de Dieu, mais quand maintenant on doit prendre un engagement personnel pour suivre Dieu, on ne le fait pas. Et c'est comparable à ce que nous pouvons vivre dans nos églises, où la prédication est donnée, les gens reconnaissent la vérité. On dit, alors engage-toi, il passe devant pour s'engager. Mais ce n'est pas ça seulement l'engagement. C'est un paramètre dans l'engagement. Le véritable engagement, c'est dans le cœur. Rester tranquille et dire vraiment là, je prends la décision que cela change. Parce que devant Dieu, parce que Dieu existe, bien-aimé, Dieu existe. Quand il reviendra, qu'est-ce que tu lui diras? Qu'est-ce que tu lui diras? Que tu n'avais pas compris, il dira, c'est faux. Un jour, tu t'étais avancé devant pour reconnaître que tu veux changer. Qu'est-ce que tu lui diras? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons pas en France sur nos politiciens? C'est des mauvais. C'est des mauvais présidents. C'est des mauvais ministres. Alors, tout le monde est prêt à voter Front National pour se venger. Parce que ceux qui dirigent sont considérés comme des mauvais. Mais quand Dieu reviendra, il posera la question suivante. Mais pourquoi alors quand le bon s'est présenté devant toi, tu n'as pas pris? François Hollande est mauvais, Sarkozy est mauvais, Intel, Obama mauvais, les ministres mauvais. Mais pourquoi quand le roi des rois, le fils de Dieu, irréprochable, l'homme des miracles, l'homme de Galilée, quand il s'est présenté devant toi, Jésus de Nazareth, sans te demander un impôt quelconque, sans te demander tes richesses, mais juste demander ton cœur pour qu'il règne dans ton cœur. Lui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quand lui, il est venu, pourquoi tu ne l'as pas accepté? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas reprocher à Jésus qui t'a pris tes sous, qui t'a fait une imposition financière? Qu'est-ce que tu diras sur Jésus? Qui t'a menti? Qu'est-ce que Jésus t'a fait? Puisque les présidents sont mauvais, les professeurs sont mauvais, les pasteurs sont mauvais. Mais que reproches-tu à Jésus? Prends Jésus et qu'il soit ton berger. C'est ça, bien-aimé. Jésus dit, vous êtes là toujours à reprocher. Mais en même temps, à faire des éloges. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand un serviteur là parle sur YouTube, il y en a qui font ses éloges, d'autres les critiquent. Et quand un autre passe, même chose. Mais le peuple qui fait tout ça ne se décide pas pour suivre Jésus. À quoi cela sert? Il y a des gens qui disent, qui aiment entendre que ce soit un homme qui était autrefois sorcier ou sataniste qui fasse son témoignage. Mais il y en a combien sur Internet des gens qui ont été sorciers, satanistes, magiciens, qui ont fait des témoignages? Mais est-ce que les gens pour autant changent pour suivre Jésus? Il y a des gens qui veulent entendre quelqu'un qui est mort, qui est revenu à la vie. Nous connaissons l'histoire dans Luc 16. Le monsieur qui s'est retrouvé en enfer, en train de souffrir, et il dit au Seigneur, à Abraham, mais envoie Lazare il était au paradis, envoie Lazare sur terre, annoncer la bonne nouvelle, annoncer aussi le jugement, parce que mes frères qui sont sur terre risquent de se retrouver en enfer comme moi. Je veux quand même pour eux qu'ils aillent au ciel. Mais le père Abraham a dit au monsieur, mais ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ah non, si quelqu'un est ressuscité d'entre les morts,
Ils écouteraient. Bien-aimés, nous sommes témoins de ce que, dans ce que nous lisons. Jésus n'a-t-il pas ressuscité un mort là? Il a ressuscité Lazare aussi. Mais il est écrit dans Jean 11, si vous voulez bien lire dans la maison, dans Jean 11, quand il a ressuscité Lazare, que c'est là qu'ils ont pris vraiment la décision de le crucifier, de le tuer. Que veulent les humains? On veut que quelqu'un ressuscite des morts. Ben, Jésus les a ressuscités. Mais est-ce que vous avez changé? Non. Toujours, nous voulons les pleurs. Quand les plaintes sont là, vous ne pleurez pas. Nous voulons danser. Quand les chants de joie sont là, vous ne dansez pas. Et Dieu dit, mais tu veux quoi? Il y en a qui choisissent leur prédicateur. Je veux écouter tel prédicateur seulement. Mais oui, mais est-ce que ça t'a amené à vraiment changer et à t'engager à suivre Jésus et à porter du fruit? Dans Jean 15, c'est dit, le Seigneur veut que ses enfants portent du fruit. Est-ce que tu portes du fruit dans ta maison? Le Seigneur ne cherche pas des grands orateurs, des grands prédicateurs. Il cherche des gens qui vont porter du fruit. Quel que soit l'endroit où ils sont, ils vont porter du fruit. Qu'ils soient commerçants, qu'ils soient banquiers, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient écoliers. Ils cherchent des gens qui vont s'offrir dans ses mains pour que lui produise des fruits à travers eux. Donc ça ne sert à rien de faire des gros commentaires en disant un tel a bien prêché si tu ne changes pas ta vie, si tu ne te rapproches pas de Jésus. Une fois Jésus passait le long d'un chemin et puis il y a une dame qui s'exclame en disant « Heureuses les mamelles qui t'ont allaité, heureux le sein qui t'a porté. » Jésus lui a répondu directement. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Heureux plutôt. L'apôtre a dit, qui est Apollos? Qui est Pierre? Qui est Paul? Tout ça, c'est des instruments. Tous ces gens-là ne sont au service que d'une seule personne. Ils sont au service de Jésus. Si tu considères que Apollos ne prêche pas comme il faut et que c'est Pierre qui prêche comme il faut. Dans ce cas, quand Pierre a prêché, il fallait que ça te décide à t'humilier à suivre Jésus-Christ. Mais lorsqu'on vérifie bien, on se rend compte que tu ne suis pas le Seigneur. Tu es devenu un thermomètre pour mesurer les bonnes prédications, un baromètre. Mais tu ne t'engages pas. Ta vie reste une vie d'indépendant vis-à-vis du Seigneur. Tu utilises le Seigneur comme du sel. C'est toi qui choisis quelle dose tu vas mettre, à quel moment. Le Seigneur n'est pas le maître. Alors à quoi servent les prédications de Pierre que tu trouves tellement excellentes? Ça devrait servir à t'amener à suivre à 100% le Seigneur. Nous lisons dans Luc 17. Luc 17. À partir du verset 11, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Dis le preux cri au Seigneur. Le Seigneur dit, bon d'accord, allez faire ce qu'il faut auprès des sacrificateurs. Il n'y a pas de problème, vous serez guéris. Et en chemin, les 10 sont guéris. Mais il y a un qui se dit, mais ce n'est pas possible. Vous savez, guérir de la lèpre, c'était un miracle immense, 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 immense. À tel point que ça faisait partie des miracles que Dieu avait mis dans la parole, comme quoi c'est ça que le Messie fera comme miracle. On reconnaîtra, le Messie, entre autres, par le fait qu'il allait guérir les lépreux. Alors le monsieur se dit, mais c'est pas possible. Je suis guéri. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais chercher à savoir plus sur cet homme-là. Je vais chercher à me rapprocher davantage de celui qui m'a guéri. Les autres ont pris leur guérison, sûrement. Ils ont dit, ah, mais c'est un vrai prophète, il nous a guéris. Ils sont partis. Jésus dit, mais il n'y a qu'un seul, en plus un étranger qui s'intéresse à la source. À quoi ça sert de faire de beaux discours si on ne s'intéresse pas à la source? On n'entre pas dans une vraie communion avec la source. Il y en a qui font de beaux discours sur les promesses de Dieu dans leur vie. Ah, moi, on m'avait prophétisé telle chose. Moi, j'ai vu telle vision quand j'avais 8 ans, quand j'avais 15 ans. Moi, je suis un élu, parce que même quand j'étais païen, je réalisais que Dieu était avec moi. Dieu m'a préparé, Dieu a fonctionné dans ma vie très tôt. D'accord, mais quelles en sont les conséquences aujourd'hui? À quoi ça a servi tout ça? Est-ce que tu t'es engagé? C'est ça la question, bien-aimé. Est-ce que tu t'es livré entre ses mains? Ce n'est pas la théorie qui compte devant Dieu, c'est la pratique. Alors, le Seigneur dit, c'est un étranger qui revient. Et les autres, c'est qui? C'était des Juifs, les gens habitués à Dieu. Et c'est le triste sort de beaucoup, les habitués à Dieu, ceux qui connaissent la Bible, ceux qui peuvent comparer les prédicateurs. Leur triste sort, c'est qu'ils finissent par devenir distraits. Ils entrent dans l'orgueil, dans la suffisance de soi. Ils deviennent des arbitres, des journalistes. Et les journalistes sont tranquilles sur leur plateau de télévision en train de critiquer les joueurs de football. Ah mais non, c'était immanquable ce but-là. Mais si on l'avait mis à la place du joueur, est-ce qu'il allait marquer? Et beaucoup sont devenus des journalistes, des arbitres. Il siffle un pénalty tranquillement. Son problème à lui, c'est que le match se fasse. Il est spectateur. Et il peut faire des beaux discours. Mais Jésus dit, mais à quoi ça a servi tout ça? Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. D'accord, mais est-ce que tu pratiques la parole? Ce qui est important pour Dieu, c'est ça. On peut faire des éloges de ce que Dieu a fait dans nos vies. Il y a des gens qui disent, frère, si je te donne mon témoignage, hein, tu seras surpris, quoi. Sœur, si je te parle de ce que Dieu a fait vraiment, ça peut prendre 3 heures. Oui, mais quand tu regardes sa vie, toujours en train d'insulter les gens, toujours en train de critiquer les gens, toujours aucun fruit, et parfois, bien-aimé, on voit toujours dans la famille de ce genre de personnes, pas de conversion, personne n'est touché. Il y a des gens qui vont dire, ça fait 40 ans moi que je suis chrétien. Oui, mais est-ce que ça a conduit au changement dans ta famille? Les discours, c'est des discours, c'est des mots en l'air. Ce qui est important, c'est ce que nous produisons. C'est que et notre engagement vis-à-vis du Seigneur, c'est ça qui compte. Ce qui fait que les gens qui sont dans les discours vont devenir comme les pharisiens. Ils ont leur propre façon de voir. Ils ne sont pas proches du Seigneur. Ils ne se sont pas livrés au Seigneur. Ils restent dans les discours et ils forment leur propre logique. Et quand cette femme-là qui était prostituée arrive à pleurer devant Jésus, elle essuie ses larmes. Et elle verse ses larmes sur les pieds de Jésus pour les laver. Ces gens-là n'ont pas compris parce qu'ils étaient dans la religion. C'est eux les non-étrangers, c'est eux les autochtones. Ils n'ont rien compris. Ah mais si Jésus était vraiment un vrai prophète, il aurait vu. Vous savez, c'est ça quand on devient journaliste. On observe les gens cherchant leurs erreurs. Quand on devient arbitre dans la vie chrétienne, on ne regarde pas soi-même. Et je dis souvent aux gens, quand quelqu'un entre dans mon bureau, il a beau critiquer son mari, je ne vais parler que de lui-même dans le bureau. Je ne vais parler que d'elle-même. Il a beau critiquer sa femme, je ne vais parler que de toi. Parce que c'est facile d'être journaliste. C'est facile d'être arbitre. Ce n'est pas facile de jouer. On est là, mais à critiquer, mais c'est Jésus là. Ils disent, mais s'il était un vrai prophète, il aurait vu que cette femme a beaucoup de péchés. Jésus dit, Simon, attends, Simon. Je sais ce que tu penses. Ah bon? Oui. Dis, mais entre deux personnes qui sont très endettées, sachant que l'une est endettée de 5 millions d'euros, l'autre de 500 000 euros ou de 50 000 euros. Mais quand le créancier dit « j'annule les deux dettes », qui sera le plus content? Simon dit « mais celui qui était endetté de 5 millions ». Ah ben, et Jésus dit « voilà ce que fait cette femme-là ». Elle est contente parce qu'elle sent que sa dette est effacée par ma présence, par ce que je vais accomplir. Elle le sent. C'est pourquoi elle vient manifester tant de joie. Elle pleure à cause de ça. Mais vous, les gens du pays, les gens qui se disent connaisseurs de Dieu, vous vous sentez tellement bons que même quand Dieu fait de belles choses, vous ne vous en rendez pas compte. Vous considérez que c'est des droits, vous considérez que c'est naturel. Bien-aimé, que veux-tu pour changer? Les politiciens te déçoivent, que veux-tu? Les hommes te déçoivent, mais Dieu te présente l'homme parfait, son fils Jésus. Qu'est-ce que tu lui reproches? Que diras-tu le jour du jugement? Que diras-tu? C'est ça la question. Que reproches-tu à Jésus? Pourquoi tu ne t'engages pas? Pourquoi tu ne lâches pas? Pourquoi tu résistes? Pourquoi tu résistes? Et beaucoup sont devenus comme des pharisiens, les connaisseurs de la parole, les gens qui ont fait 30 ans, 20 ans de conversion, mais ils n'ont pas lâché. Ils n'ont pas tout lâché. Et en ne lâchant pas tout, c'est devenu des journalistes et des arbitres. Les journalistes sont irréprochables. Et ils sont là pour voir les défauts des autres. Il faut lâcher, bien-aimés. Il faut lâcher. Et Jésus a dit, les nombreux péchés de cette femme sont pardonnés. Et cette femme est partie dans la joie. Mais les autres sont restés là. Mais qui est-il pour pardonner les péchés? Vous voyez comment ils sautent, hein? Ils commencent d'abord par... Mais ils ne voient pas que c'est une sale femme. Ils disent, mais oui, mais Dieu est venu sauver les sales. D'accord. Les péchés sont pardonnés. Mais qui est-il encore pour pardonner les péchés? Alors que Jésus venait de ressusciter un mort, il venait de guérir un malade. Maintenant, vous avez vu ça, vous vous étonnez qu'ils disent que les péchés sont pardonnés. Bien-aimés, les discours ne servent à rien. Ce qui est important, c'est l'engagement dans lequel nous entrons. Il ne s'agit pas de dire « je suis dans une bonne église ». Mais si cette bonne église n'a pas contribué à te changer, à quoi ça a servi? Jean-Baptiste jeûnait tout le temps. Il mangeait du miel et de sauterelles. Ah, il a un démon. Jésus vient, il mange, il boit. Ah, il a un problème. Alors qu'est-ce que vous voulez? Rester journaliste, arbitre, ou bien s'engager aussi dans la bataille? Jésus a dit, là où je suis, c'est là que doit être mon serviteur. Jésus n'a pas été dans un poste de journaliste. Il a été dans la bataille. Il a pris des risques. Il a agi. Il a guéri des gens le jour de sabbat parce qu'il savait que c'était son combat de guérir les gens, de ressusciter les morts. Il a dit la vérité aux pharisiens. Il ne s'est pas caché. Il n'a pas été journaliste pour juger les uns les autres, faire des comparaisons. Non, il s'est engagé dans une lutte. Il a livré son corps au sacrifice à la croix. Ça, ce n'est pas le journaliste. Il s'est livré lui-même. Il a dit, je me livre pour que les humains, tous les humains soient sauvés. Et le Seigneur cherche des gens qui vont dire, je me livre pour servir le Seigneur. Je me livre au Seigneur. Parce que le Seigneur sait mieux que moi comment se servir de moi. Commençons par là. C'est le début de tout. Livre-toi au Seigneur et le Seigneur saura ce qu'il fera de toi. Il est écrit dans Actes des Apôtres au chapitre 9, Paul dit au Seigneur, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Mais c'est ce qu'il faut dire au Seigneur. « Seigneur, je me livre à toi. » Restez dans le rond, autour du rond-point en disant, « Bon, je n'ai pas vu suffisamment de miracles. » Pourtant, tu en as vu, tu en as témoigné. Toujours au rond-point, tu restes au rond-point. Non, il faut se livrer, dire, ça suffit. Je me livre maintenant. Et il y a des chrétiens qui ne se livrent pas. Ils se disent, je prie, j'intercède, c'est bon. Mais non, Dieu nous appelle à aller toujours plus loin. Il y a la Normandie à sauver. Il y a la France à sauver. Dieu a toujours besoin de nous à haut niveau. Il attend vraiment qu'on s'offre totalement. Et ça va commencer dans la vie de tous les jours, dans ta maison. Comment tu vas être avec le mari, avec la femme? Comment tu vas être avec les enfants? C'est là qu'on verra que là, tu t'es livré. Tu laisses le Seigneur faire. Tu laisses l'autre dire que tu as tort, mais tu comptes sur Dieu. Ça va aboutir au fait que tu ne seras plus un accusateur. Parce que qui est-ce qui est appelé accusateur dans la Bible? C'est le diable, l'accusateur de nos frères. Et quand tu passes ton temps à accuser les autres, tu ressembles plus au diable, tu ne ressembles pas au Seigneur. Le Seigneur a sauvé cette femme-là. Le Seigneur était en paix, il était tranquille, il était doux. Nous comprenons que les nouveaux convertis fassent des erreurs en faisant l'accusateur parce qu'il y a encore un problème de maturité. Mais beaucoup ne sont pas de nouveaux convertis. Ils le sont depuis longtemps, mais ils restent dans l'accusation. Ils n'entrent pas dans la construction. Ils n'entrent pas dans le sacrifice. Ils n'entrent pas dans la confiance en Dieu pour dire, pour une fois pour toutes, je veux croire en Dieu. Je refuse de dépendre de ce que font les hommes contre moi. Je dépends de Dieu. Dans la vie d'un homme, d'une personne, à un moment donné, il faut faire confiance en Dieu. Si tu n'as pas fait il y a 50 ans, il y a 20 ans, aujourd'hui, fais confiance en Dieu qui s'occupera de toi. Tu n'as pas besoin d'accuser ni Dieu ni les hommes. Et pour finir, bien-aimé, je veux dire, qu'est-ce qui bloque? Deux choses essentiellement. Le fait que Dieu soit invisible. Comme Dieu est invisible, l'homme peut tout mettre. Mais Dieu n'est invisible qu'en apparence. Parce qu'il dit dans Romains au chapitre 1er qu'il est visible à travers la perfection de la création. Il est visible à travers sa parole. Il le dit dans Romains au chapitre 1er et 2. Sa parole est dans le cœur. Dieu est réel. Mais puisqu'il est invisible aux yeux, l'homme se permet de faire ce qu'il veut. Mais alors que la Bible est là, la parole de Dieu, alors que la perfection de la création est là, alors que l'histoire humaine est là. L'histoire montre combien de dictateurs, comment ils ont fini. L'histoire nous enseigne, le monde nous enseigne. Dieu est présent. Mais on peut décider, parce que les yeux ne voient pas, de faire ce qu'on veut. Mais ça ne change pas le fait qu'il est réel, un jour nous serons jugés. On peut ignorer la réalité de la mort parce qu'on se sent physiquement fort. Ça ne change pas le fait qu'un jour nous mourrons. L'autre problème, c'est l'orgueil. L'homme ne veut pas céder parce qu'il se prend pour Dieu. Il y a un orgueil fort dans l'homme. Il ne reconnaît pas ça en accusant le monde, en accusant Dieu et en accusant les autres, parce qu'il ne veut pas admettre que le problème, c'est lui-même. Bien-aimé, quand ça ne va pas, le problème, c'est toi-même. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas le monde, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Humilie-toi et repens-toi. À la croix, il y avait deux personnes. Les deux, c'était des bandits. Mais il y a un qui a été sauvé et l'autre qui n'a pas été sauvé. Est-ce que le deuxième qui n'a pas été sauvé, celui qui n'a pas été sauvé plutôt, est-ce que c'était parce que c'était un bandit? Ben non, puisque l'autre a été sauvé. Le premier a été sauvé. Le deuxième n'a pas été sauvé parce qu'il était un bandit. Le deuxième n'a pas été sauvé parce que c'était un orgueilleux. Les deux, c'était des bandits. Mais Dieu, le Seigneur, est venu sauver les bandits. Mais le Seigneur, cela est écrit noir sur blanc dans la Bible, 1 Pierre 5, Dieu résiste aux orgueilleux. Il a dit, le prostitué, vous devancerons au ciel. Il a sauvé des voleurs. Il a sauvé des tueurs, des assassins. Il a sauvé des menteurs. Mais Dieu ne peut pas sauver les orgueilleux, malheureusement. Le bon exemple, c'est à la croix. Il y avait deux hommes qui avaient tous les péchés en eux, bandits, meurtriers. Un a été sauvé et l'autre n'a pas été sauvé. Et on comprend que ce n'est pas parce qu'on est bandit qu'on ne peut pas être sauvé, puisqu'il a été sauvé. Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Mais l'autre était dans le même cas. Mais pourquoi il n'a pas été sauvé? Parce qu'il n'a pas voulu s'humilier devant Dieu. C'est bête, mais c'est ça la réalité. Vous savez, l'orgueil, c'est quand même... De la même manière que Dieu est invisible, l'orgueil, c'est le péché qui peut être aussi invisible. Vous voyez là, le parallèle, hein? Dieu est invisible, quoique apparent à travers sa création, à travers ses créatures, à travers sa parole. Il est d'une certaine manière visible. L'orgueil aussi est invisible, mais il va apparaître dans les actes, dans ses créations. Donc l'orgueil, c'est l'opposant direct de Dieu. C'est pourquoi il ne peut pas sauver un orgueilleux, parce que c'est son opposant, c'est son ennemi direct. Les deux sont invisibles, et Dieu et l'orgueil sont invisibles, ils apparaissent dans leurs œuvres. Et l'homme, après Satan et les démons, c'est la créature qui a le plus d'orgueil. Parce qu'il a été créé avec une certaine autorité. J'ai souvent dit aux gens, si l'homme a pu se rebeller contre Dieu, il n'y a aucun homme sur terre qui peut soumettre d'autres humains indéfiniment. C'est impossible. Si l'homme a résisté à Dieu, il peut résister à n'importe qui. Alors, pour l'amener à se soumettre, il faut un long travail de manipulation. C'est ce qu'ont fait les francs-maçons, les athées, les satanistes. Ils vont amener, ils font un long travail de manipulation pour amener les hommes à se soumettre, mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas cette soumission. Jésus viendra tout casser. L'orgueil, c'est le fait de croire qu'on a raison, alors que c'est Dieu qui a raison. L'orgueil, c'est le fait de ne pas regarder à soi-même pour chercher ses torts, regarder qu'au tort des autres. L'orgueil, c'est négliger la Bible. L'orgueil, c'est négliger l'histoire. L'orgueil, c'est négliger Dieu lui-même, oublier que c'est lui qui existe et qui préside à tout. Et ce qui est encore grave, c'est lorsque nous ne savons pas ce que nous voulons. Quand nous nous approchons de Dieu, il faut se poser la question, je veux quoi quand je viens à l'église? Qu'est-ce que je veux? Quand je lis la Bible, ça c'est le plus grave. J'ai cité deux éléments. L'invisibilité de Dieu fait que les gens remplissent le vide par n'importe quoi. L'orgueil, mais il y a aussi le manque de positionnement. C'est ce qui empêche les gens à s'engager avec le Seigneur et à porter du fruit. Quand tu t'approches de Dieu, tu veux quoi? Alors la Bible nous montre ce qu'on doit chercher en s'approchant de Dieu. On doit chercher à être comme Jésus. Comment tu peux être un grand intercesseur, une grande intercesseuse, mais tu passes ton temps à quereller ton mari ou à quereller ta femme? Il faut savoir ce qu'on veut. J'entendais un prédicateur dire, mais je pense que moi, il y a certains pasteurs, je vais commencer à les taper. Alors, en disant, mais Jésus aussi a frappé les gens dans le temple. Est-ce que cette personne veut vraiment ressembler à Jésus-Christ? Il faut se poser cette question. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que quand je viens au Seigneur, je viens pour l'argent? Il faut être honnête. Si c'est pour l'argent, redresse-toi aujourd'hui. Si c'est pour résoudre tes problèmes de foyer, redresse-toi aujourd'hui. On ne vient pas au Seigneur pour ça. On vient au Seigneur pour se réconcilier avec notre Créateur. C'est grâce à lui que nous sommes réconciliés. Maintenant, nous pouvons mener une vie avec le fruit du Saint-Esprit, sous la protection de Dieu et dans le feu total. Le monsieur de Gadara, le démoniaque, qui a été guéri lorsqu'il a été délivré de ses démons, il nous est dit dans Luc au chapitre 8, il est resté auprès de Jésus. Il suivait Jésus partout. C'est logique quand on se rend compte que c'est Jésus finalement qui m'a donné ce que je cherchais. Mais pourquoi m'éloignerais-je? Beaucoup ont reçu guérison, conversion, mais après ils s'éloignent du Seigneur. Mais non! Le démoniaque s'est dit, mais c'est lui qui m'a libéré, celui qui m'a sauvé. Comment pourrais-je m'éloigner encore de celui qui est la source de tout mon bien? Ce n'est pas logique. Esther Gulshan, elle avait environ 20 domestiques, une richesse léguée par son père, une grande richesse, une grande maison. Mais elle était infirme. Quand Jésus lui paraît au Pakistan et la guérit, sa tante dit, « Ma fille, ne dis pas que c'est Jésus qui t'a guéri parce que tes frères risquent de te tuer. D'accord, tu es guéri, nous sommes contents. Mais si tu dis à ta famille que c'est Jésus qui t'a guéri, mais tu vas tout casser. » Et écoutez la réponse d'Esther. Elle a dit, mais c'est Jésus qui m'a guéri. Ça fait 20 ans que je suis comme j'étais infirme, avec les membres atrophiés, ne pouvant rien faire. C'est toi qui me lavais, qui me faisais tout. Maintenant que je marche, je peux tout faire. Tu veux que je m'éloigne de celui qui m'a produit tout cela ? Elle dit, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'elle n'a pas connu ? La prison. Elle a dormi dehors, dans le jardin. Qu'est-ce qu'elle n'a pas connu ? Mais elle ne pouvait pas s'éloigner de celui qui lui a donné la vie. Pourquoi les gens s'éloignent ? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Lorsque j'observe le monde, je vois tant d'injustices, tant de méchancetés, les enfants violés, les enfants tapés, les politiciens véreux, les pleurs, même quand les gens sont contents, il y a des pleurs. Vous savez, quand une équipe gagne, une autre équipe pleure lorsqu'il y a match. Quand je vois tout ça, je dis, mais non, le monde n'est pas bon. Je préfère rester auprès de celui qui m'a donné la vie, qui peut me rendre heureux sans rendre quelqu'un d'autre malheureux. C'est Jésus. Mais il ne suffit pas de dire « je suis chrétien ». Il faut s'offrir à ce Jésus-là. Il faut s'engager avec lui. Aujourd'hui, reconnais que tu manquais de position et prends une position. Aujourd'hui, Jésus te dit, ça ne sert à rien de dire qu'il est le Fils de Dieu, il est ceci, il est cela, sans que tu te livres. Les moi, à tout moment, je. Non. Désormais, ça doit être le Seigneur. Le Seigneur est invisible, mais sa parole est là et son esprit nous parle. Tu sais ce qu'il attend de toi, mais tu ne fais que résister en trouvant toutes sortes d'arguments, en trouvant les erreurs des autres et ainsi de suite. Restons avec le Seigneur, comme le démoniaque de Gadara lorsqu'il a été délivré. Livrons-nous à lui. Qui va sauver la France ? Qui va sauver le peuple qui se meurt ? Il faut des chrétiens livrés au Seigneur à 100%. Ainsi, tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. L'apôtre a dit, « Seigneur, où irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Seigneur, c'est vrai que nous ne sommes pas comblés à 100%. On doit l'avouer, on peut souffrir encore de maux de tête. On peut souffrir encore d'injures. On est sur la terre de péché. Pierre a dit, Seigneur, c'est vrai que les paroles que tu viens de dire, en quelque sorte, c'est dur. Mais à part toi, qui d'autre est sans péché ? À part toi, qui d'autre nous promet l'éternité au paradis ? À part toi, qui d'autre peut secourir la veuve qui perd son fils ? À part toi qui peut guérir un aveugle ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Un jour, frères et sœurs, nous serons comblés totalement, d'une manière irréprochable. Tout sera parfait au ciel. La terre est une terre de difficultés. Le Seigneur n'attend pas de nous que nous soyons pour venir à lui des grands champions. Il dit non. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es chargé. Tu hésites entre plusieurs voies, la voie du péché et la voie du Seigneur. Mais il y a un choix à faire. N'attends pas de vaincre la voie du péché pour faire ce choix. Fais ce choix même quand tu te sens faible. Fais le choix de dire, Seigneur, ma position, c'est toi. Fais le choix de Pierre. Où irions-nous, Seigneur, même si nous n'avons pas tout compris, même si, bon, tu nous mets dans des positions difficiles. Vous savez que Jésus mettait les apôtres dans des positions difficiles en se mettant lui-même dans des positions difficiles lorsqu'il affrontait les pharisiens, lorsqu'il faisait des choses qui choquaient. Il mettait tout le monde qui l'entourait dans la position difficile. D'ailleurs, c'est pourquoi dans Luc 22, il dit « Vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves » en parlant à Pierre et aux autres. Pierre dit « Même s'il y a tout ça, tu nous mets dans des positions difficiles. Nous avons compris que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Daniel était dans la défaite à Babylone. Son pays avait perdu la guerre contre Babylone. Mais il savait que le Dieu d'Israël, c'était lui le véritable Dieu. Autant être dans la fosse au lion plutôt que dehors. Dans la fosse au lion avec lui plutôt que dehors sans lui. Nous avons des choix à faire, c'est vrai, frère. Il y a des gens qui ont des choix, divorcer ou pas. Le monsieur est trop mauvais. La femme est trop mauvaise. Et tu es en train de cogiter, je divorce ou pas. Il y a des gens peut-être qui sont dans le concubinage. Ils se disent, mais si j'arrête le concubinage, elle risque de trouver quelqu'un d'autre ou bien il risque de trouver quelqu'un d'autre. Mais alors, qu'est-ce que tu veux chez Dieu? Ne viens pas passer du bon temps. Il faut quand même avoir une attente quand on s'approche de ce Dieu-là. Mais que ton attente soit une réconciliation totale où Dieu va devenir ton père et va s'occuper de toi. C'est lui qui te donnera le vrai mari. C'est lui qui te donnera la vraie femme. Le concubinage est un péché. Le divorce n'est pas accepté par Dieu. Dieu peut transformer le mari ou la femme. Mais d'abord, toi, choisis Dieu. Livre-toi au Seigneur. Amen. Seigneur, merci de nous aider à sortir des polémiques, à sortir des discussions vaines, à tourner en rond sans prendre la vraie décision. Tu ne cherches pas les parfaits, mais tu cherches les gens qui veulent de toi, que tu t'occupes d'eux, tu soignes leur vie, tu changes leur vie. Tu ne veux pas qu'on tourne en rond. C'est pourquoi Josué nous dit, choisissez qui vous voulez servir. Ou c'est le gouvernement, ou c'est Dieu. Ou c'est l'État, ou c'est Dieu. Et quand les gens sont venus avec la pièce, voulant te piéger, est-ce qu'on paye les impôts ou pas? Tu as été clair. Rendez à chacun. À l'État, ce qui est à l'État et à Dieu, c'est votre vie. Parce que en vous, vous êtes une pièce sur laquelle est gravée l'image de Dieu. Même si ça a été sali, rendez-vous à Dieu. Seigneur, qu'aujourd'hui, chacun décide de se rendre à Dieu. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Notre corps, notre âme et notre esprit doivent être rendus, Seigneur. Au nom de Jésus. Que ceux qui sont fatigués, Seigneur, aujourd'hui, disent, nous sommes fatigués d'être dans cet état. Aujourd'hui, je veux un commencement nouveau. Je veux arrêter avec le péché. Je veux arrêter avec l'hésitation. Je veux marcher avec le Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, entends le cri de nos cœurs. Il y a des gens qui se posent la question, est-ce que je pourrais vivre vraiment dans la sainteté? Oui, tout est possible à celui qui croit. Agis, Seigneur, au nom de Jésus.